אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. Et oui, vous connaissez bien cette phrase, Shavuatov, Chodesh Tov, on peut encore se dire Chodesh Tov, hein. Et Isru Chag Sameach, comme on dit, on est après Chag à Shavuot. Voilà, Boker Tov, j'ai envie de te dire, Yom Rishon. Donc, on revient dans notre étude sur le Bet Amigdash pour, je pense, l'avant-dernier cours de notre série sur la visite au Bet Amigdash. Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir une visite un petit peu plus... vous savez quoi? En fait, on aura plus de cours que ça. Bon, on verra. J'ai pas encore compté combien de cours on aura exactement. Quoi qu'il en soit, il y a une question que je voudrais poser. On a fait déjà trois cours pour expliquer qu'est-ce que c'était que le Bet Amigdash concrètement. Le premier, le second, comment était le plan général du Bet Amigdash, comment étaient les ustensiles et où étaient-ils du Bet Amigdash. Eh bien, ce matin, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de l'avenir. On reviendra aux journées particulières du Bet Amigdash, certainement la semaine prochaine. Mais là, ce matin, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'avenir. Eh oui, de l'avenir. Alors, deux secondes, j'ai commencé en disant « Yimeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini ». On se souvient de Jérusalem, on se souvient du Bet Amigdash, on a plein de halakhot pour ça. On a déjà parlé à Yom Yerushalayim. Abodai, qu'en est-il du Beit Shlishi, du troisième temple? On a beaucoup parlé du second et on va continuer à en parler pour apprendre comment est-ce qu'on va devoir réagir et agir dans le troisième temple. Mais là, ce matin, je voudrais qu'on parle un petit peu du troisième Bet Amigdash. Et Bichlal, je voudrais qu'on parle deux secondes du Bet Amigdash. Vous savez, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, tel que c'est marqué dans la Torah, dans le livre de Bereshit. Et quand on regarde de plus près la Torah et le livre de Bereshit, eh bien, on se rendra compte que les journées de la création obéissent à un schéma. Un schéma qui revient dans toutes les journées de la création. Ce schéma, il est en quatre étapes. Il y a quatre étapes dans chaque jour de la création, à savoir projet, réalisation, observation, conclusion. Alors, on va voir ça dans le premier jour, c'est le plus facile à comprendre. Vayomer Elohim yehi or. Et Dieu a dit que la lumière soit. C'est le projet. Vayehi or. Et la lumière fut. Réalisation. Vayar Elohim et Taor Kitov. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Ça, c'est l'observation. Vay Erev, Vay Voker, Yom Echad. C'est la conclusion. Et si on regarde de plus près, eh bien, on se rendra compte que, avec une variante par-ci par-là pour le deuxième jour, mais dans chacun des jours de la création, ce schéma revient. Dans le deuxième jour, on ne donne pas la conclusion, l'observation dans le deuxième jour, parce que la melacha du deuxième jour se termine dans le troisième. L'homme gêné. Ces quatre étapes apparaissent, eh bien, dans toutes les journées de la création. Et on voit bien cela avec la conclusion qu'il y a dans chaque jour. Vaye erev, vaye voker, yom x. Ce qui nous amène, évidemment, eh bien, au dernier jour. Le septième jour. Là-bas, dans le septième jour, il y a marqué Vaychulu Hashamaim Vaharetz Vechol Sevaham Vaychal Elohim Bayom Hashevim Melachto Asher Asa Vaishbot Bayom Hashevim Kom Melachto Asher Asa Vaifarech Elohim Et Yom Hashevi Vaykadesh Oto Kivo Shavat Mikol Melachto Asher Bar Elohim Laasot. Et très étonnamment, il n'est pas marqué Vay Erev Vay Voker Yom Chevi, ou à Chevi, à la place, la tradition d'Israël a rajouté sa vraie Maranan. Mais bon, au-delà du Kiddush, il n'y a pas marqué Vayere, Vayevoker, Yom Chevi. Ce qui veut dire que nous sommes toujours dans ce septième jour. Dans la mesure où la Torah ne nous a pas conclu le septième jour, eh bien, nous sommes toujours dans le septième jour. Eh oui. Tov, alors on est toujours dans le septième jour, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint le projet, la réalisation, si vous voulez, du projet du septième jour, eh bien, on ne l'a pas fini. Et quel est ce projet? Eh bien, c'est marqué « Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i Vayekadesh Oto ». L'objectif du septième jour est d'arriver à la Kedusha. Voilà l'objectif du septième jour. Dès qu'on arrivera à la Kedusha dans ce monde, alors, on pourra terminer le septième jour et rentrer dans le huitième jour. Mais attention, car ce huitième jour, eh bien, bien qu'il soit un état à atteindre pour le monde entier, mais il faut savoir qu'il a déjà commencé quelque part. Où a-t-il commencé? Eh bien, vous allez deviner où je vais en venir. Il a commencé au Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash, le Mishkan, eh bien, c'est d'ores et déjà le huitième jour. D'où je le sais? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a marqué dans la paracha de la construction du Mishkan, on nous dit « Vayi bayom ha-shemini beyom kalot Moshe la-hakim et ha-mishkan » C'est-à-dire que le jour où Moshe a terminé l'inauguration et la construction du Mishkan, on l'appelle dans la Torah « Yom ha-shemini ». Vous allez me dire « Oui, mais ce n'est pas vraiment Yom ha-shemini de la création, c'est simplement le huitième jour où les Nessim, les chefs de tribu, ont amené leur sacrifice. » Et je réponds « Non ». Non, car Rashi nous dit que c'est Rishon, de la même façon que Ushmini, eh bien le premier, le jour où Narshon ben Aminadab, le chef de la tribu de Yehuda, a amené son korban, il n'est pas seulement Rishon des cadeaux, mais il est également en fonction, mis en relation avec Rishon, le Maaseh Bereshit. Donc le Shmini également. En d'autres termes, au Beit HaMikdash, le Yom HaShemini a déjà commencé. C'est-à-dire que lorsque tu rentres au Beit HaMikdash, tu rentres, comme dit Rashi dans la paracha de Terouma, « Vasouli Mikdash Veshachanti Betocham » Qu'est-ce qu'il dit Rashi ?« Vasé Mikdash Bait Shel Kedusha » En d'autres termes, quand tu rentres dans le Mikdash, tu as atteint la Kedusha, qui est le projet du septième jour. Donc tu es déjà dans le huitième jour. Ça explique quand même pas mal de choses. Ben oui, ça explique quoi? Ben ça explique que lorsque le monde n'a pas atteint cette dimension du huitième jour, eh bien le Beit HaMikdash, en tant qu'ambassade du huitième jour dans le septième, est en fait un corps étranger dans un corps existant. Lorsque tu mets un corps étranger dans un corps existant, le corps se défend et il rejette ce corps étranger. Il n'y a donc aucune surprise que le Beit HaMikdash ait été détruit. Le monde dans lequel il était n'étant pas prêt à le recevoir, eh bien le Beit HaMikdash ne pouvait pas résister. Il y a fort à penser que lorsqu'on va construire le troisième Beit HaMikdash, eh bien, ça sera de pair avec l'évolution d'un monde qui sera prêt à recevoir le Beit HaMikdash. Parce que c'est de cela qu'on parle. Lorsqu'on parle du Beit HaMikdash, eh bien, on parle de l'entrée dans ce monde extraordinaire qui nous dépasse complètement, qui est le huitième jour. Et on avait déjà évoqué l'histoire du Kohen Gadol et tout ça. C'est Barour que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Mikdash et dans le Kodesh HaKodashim encore plus, il rentre dans le huitième jour. Il a atteint une dimension absolument extraordinaire. Alors, il est évident qu'il n'a pas envie d'en ressortir. Bien sûr qu'il a envie de rester là-bas. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit « Mashbein Oto ». On le fait prêter serment de ne pas changer de ce qu'on lui a dit de faire dans le Kodesh HaKodashim et surtout de ressortir. Mais « Mashbein Oto », ça vient de la racine Sheva. C'est-à-dire qu'on le fait rester avec nous dans le septième jour. Tu vas là-bas, mais reste avec nous. C'est cette fameuse corde zoharique, qui n'est pas marquée dans le Talmud, elle est marquée dans le Zohar, qu'on attacherait au pied du Kohen Gadol. Ce n'est pas une corde physique, c'est une corde mentale qui lui fait se rappeler qu'il rentre dans le huitième jour, mais il doit ressortir et revenir nous donner ce qu'il y a trouvé. Pour qu'à un moment donné, tout le monde puisse rentrer dans le huitième jour. Rabotai, c'est de cela qu'on parle. Le Beit HaMikdash, c'est l'entrée dans un autre univers. Tout simplement. La question qui va m'intéresser ce matin est de savoir, est-ce que ce troisième Beit HaMikdash, on va le reconstruire ou pas? Excusez-moi, petit problème technique. Est-ce que ce troisième Beit HaMikdash, on va le reconstruire ou pas? Est-ce qu'il va tomber du ciel? Est-ce que c'est magique, cette histoire du Beit HaMikdash? Oui, aujourd'hui, vous voyez, ça bouge. Voilà, c'est la technique qui veut ça. Alors, on va le construire ou est-ce que le Beit HaMikdash va tomber du ciel? Pourquoi pas? Et en fait, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais 2 secondes, temps mort, qu'on fasse une petite parenthèse qui est fondamentale. En mikra yotze mide pshuto. C'est un grand principe de l'étude de la Torah que tu ne peux pas sortir un verset complètement de son sens littéral. Il y a évidemment, évidemment qu'il y a également des sens cachés, des sens ésotériques, bien sûr, mais elles ne peuvent pas venir contredire et effacer le sens littéral. Je vous donne un exemple. Parce que c'est très important de comprendre cela. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait que des juifs fermés d'esprit pour dire que lorsque dans la Torah il y avait marqué qu'il ne fallait pas manger de cochon, marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. Eh bien, il y a des gens qui ont dit, oui, bien sûr, les juifs étriqués avec des œillères. Lorsque la Torah a dit qu'il ne faut pas manger de cochon, eux, ils en ont déduit qu'il ne faut pas manger de cochon. Mais quels idiots, ces juifs! Tout le monde comprend qu'en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas se salir l'âme comme le cochon se roule dans la boue. Ce n'est qu'une un vecteur moral, ce verset. Il n'y a absolument aucun interdit de manger du cochon. Qui a dit ça? Ouais. Ouais, les chrétiens. Exactement. Les chrétiens ont pris ce verset de la Torah, en ont enlevé complètement le sens littéral et ont cherché simplement une espèce de signification spirituelle et morale. Alors, le problème, c'est que les chrétiens, ils ont fait ça dans toute la Torah. Mais avec cet exemple-là, je me permets de dire que tous les versets de la Torah doivent d'abord être compris au sens littéral. Au sens littéral. Après, tu peux mettre des choses. Donc, quand il y a marqué qu'on n'a pas le droit de manger de cochon, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. Point. Après, tu peux trouver des interprétations. Mais d'abord, il faut que tu comprennes qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. De la même façon, vous savez, il y a Rabbi Nachman Ibn Breslav qui avait fait un shiur. Il avait fait un shiur à ses élèves dans lequel, lorsqu'il était revenu d'Eretz Israël, dans lequel il a expliqué qu'il fallait monter en Israël. Et Rabbi Nathan, son élève, lui a demandé après le cours, il lui a dit, Rabbeinu, quand tu parlais de monter en Eretz Israël, tu parlais de quoi, de quelle prinote, de quelle dimension de Kabbalah? Et Rabbi Nachman a dit, non, t'as pas compris. Il faut monter en Israël, dans la vraie Eretz Israël, là où il y a Jérusalem, là où il y a Hebron, là où il y a Shrem, la terre, le sable. Et Rabbi Nathan, il dit, après avoir longuement écouté notre maître, Rabbeinu, j'ai compris qu'il voulait vraiment parler de la terre d'Israël. C'est tellement un chidouche quand on dit qu'il faut monter en Israël que ça veut dire qu'il faut monter en Israël. Avotai, les textes de la Torah sont d'abord à comprendre au sens littéral et ensuite à rajouter toutes les explications. Il faut les rajouter, bien évidemment. Mais tu ne peux pas sortir le sens littéral. Pourquoi je dis cela? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on parle du Beit HaMikdash, j'aimerais simplement rappeler, c'est pas moi qui le dis, qu'il y a une mitzvah de construire le Beit HaMikdash. Ben oui, mitzvah de construire le Beit HaMikdash. Là où il y a marqué dans le livre de Shemot, au chapitre 25, au verset 8, « Ve'asu li mikdash ve'shachanti ve'tocham. » Ve'asu li mikdash, ça veut dire « il faut faire le Beit HaMikdash ». Et donc, la question, elle est la suivante. Est-ce que le judaïsme doit être compris au sens littéral ou est-ce que ce n'est qu'une explication ésotérique? On a déjà dit, les chrétiens ont fait passer toute la Torah pour de l'ésotérisme. On n'est pas chrétien. Mais il y a un autre problème. C'est le côté yaldouti, le côté un petit peu enfantin qu'on a tendance à mettre en faisant passer le midrash ou les midrashim, ou les explications qui, des fois, on ne sait même pas d'où ils viennent, et où l'enseignant dit « ouais, c'est marqué dans les Saintes Écritures, bah, Sfarim Akdoshim ». Il y a des fois des explications qui, si on ne comprend pas qu'elles ne sont là que pour expliquer une dimension et qu'elles ne sont pas littérales, eh bien, ces explications, les prendre pour le littéral, ça fait passer tout le judaïsme pour quelque chose d'assez débile. Je vous explique. Et on va y revenir. Mais l'idée de dire, ben voilà justement Moshe, c'est ma prochaine phrase. L'idée de dire que le Beit HaMikdash va tomber du ciel, et on va rentrer dans les sources. Mais l'idée de dire que le Beit HaMikdash va tomber du ciel, c'est d'abord et avant tout enfantin. C'est d'abord et avant tout Yaldouti, Katan. Quoi? Ça veut dire qu'il y a un espèce d'astéroïde avec le Beit HaMikdash qui tourne dans la galaxie? Et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de recevoir de Ben Gurion, l'aéroport, de recevoir le Ishur Nechita et l'autorisation de se poser. Et là, tout d'un coup, il va se poser. Attends, non seulement c'est complètement voilà, irrationnel, deuxièmement, t'imagines la poussière. Mais ça va être le balagan terrible. Terrible. Non, Rabotai. De quoi parlons-nous? Alors, après avoir expliqué tout ça, je voudrais quand même vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On va le construire, on va pas le construire, il va tomber du ciel, il va pas tomber du ciel. Réfléchissons de ce. Il y a 5 chitotes, 5 idées de savoir ce qui va se passer avec le troisième temple. Je vous le dis tout de suite, la bonne réponse, c'est la 5e. Venez, on va voir de quoi il s'agit. Le premier avis, eh bien, est l'avis du Rambam. Et quand je dis le premier avis, c'est pas au niveau chronologique, hein. C'est moi qui le mets dans un ordre aléatoire. On pourrait le dire dans l'autre sens, c'est pas grave. Le premier avis, celui du Rambam. Le Rambam nous dit, tout simplement, mitzvat ase shel Torah. La sot bait la Hashem. Umikan mukhan l'akriv lo et akorbanot. וחוגגים עליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר, ועשו לי מקדש. פשוט. זה פשוט. נודיע לרמב״ם, נוזבו עם מצווה, דן ל-613 מצוות, דן קונסטריר לבית המקדש. זה תו, פוין, לרמב״ם פוסק להלכה, כלבית המקדש הוא מל קונסטריר, פיסקונה עם מצווה דלפר. שאתה רפל כתה עם מצווה, de, je sais pas moi, de faire la brit mila à ton fils. Alors toi, tu sais pas forcément faire, tu payes un chaliar, le moël, pour le faire, metsuyan, mais j'aimerais bien voir. Ah oui, non, mais moi j'ai une mitzvah de faire la brit mila à mon fils, mais attention. Et en aucun cas, ça veut dire que moi je dois prendre un couteau ou que le moël doit prendre un couteau. Pas du tout. Ça doit venir du ciel. C'est-à-dire qu'un jour, mon fils, il va se réveiller, il aura plus de prépuce. Tu comprends que non. Et je rappelle qu'il n'y a pas de différenciation dans la Torah. La Torah, elle est tout autant importante de son premier verset jusqu'au dernier verset. D'ailleurs, entre parenthèses, à Shavuot, j'ai dit à ma communauté que s'ils me demandent à moi, je pense qu'il ne faut pas se lever pour la lecture des 10 commandements. Ou alors, tu te lèves pendant toute lecture de Torah. Moi, j'ai l'habitude de ne jamais être assis pendant la lecture de la Torah. Je m'assois pendant les aliotes, mais c'est pendant que le gabbai fait monter quelqu'un, mais pendant la lecture, je suis debout, quelle que soit la lecture de la Torah. Ou alors tu es assis, mais à ce moment-là, tu es assis tout le temps. Il n'y a pas une partie de la Torah qui est plus importante qu'une autre. Bon, après, je leur ai dit, bon, ben, par contre, si vous avez quand même envie de vous lever, levez-vous au début de la aliyah. C'est-à-dire, ne vous levez pas juste au verset, parce que ça fait du bruit avec les chaises, machin. Mais toute la Torah, elle est importante. Donc, si tu admets que pour la Brit Mila, bah, enfin, c'est absurde, s'il y a une mitzvah de le faire, bah, faut le faire. Bah, pour le Beit Hamikdash, c'est pareil. Il y a une mitzvah de le faire, donc faut le faire. OK? Donc ça, c'est la première dimension, l'avis du Rambam. Il y a un deuxième avis qu'on attribue à Rashi et au Baalé Tosafot. Je dis bien qu'on attribue parce qu'en fait, Rashi va dire particulièrement l'inverse. Je vous explique. D'après le Midrash Tanhuma et la Gemara dans Maseret Souka, eh bien, il y a une sugya, une discussion qui nous dit que Dieu, il peut amener la Geoula comme il veut. Et donc, il peut l'amener également, pouf, ce qu'on appelle Kerefain. Comme ça, pouf. Et la question qui est posée là-bas par Rashi, c'est que si jamais il amène la Geoula Kerefain, qu'est-ce qu'il en est du Beit Hamikdash? Et à ce moment-là, Rashi nous dit que le Beit Hamikdash, pouf, il va tomber du ciel, qui ouvre banou yom shuchlal le mal. Parce qu'il est déjà construit et prêt là-haut. Et donc, il y en a qui voudraient dire que Rashi est en train de nous dire qu'il va tomber du ciel. C'est qu'encore à prouver qu'il est construit et prêt là-haut, ça veut dire dans le ciel, dans l'espace. Vous comprenez bien que c'est évidemment pas de cela qu'on parle. On parle dans les mondes supérieurs, mais ce ne sont pas des dimensions physiques. Donc ça ne veut rien dire que s'il y a un Beit Hamikdash métaphysique qui est prêt dans les cieux, qui va devenir le Bet-Amigdash qu'on crée ici. Ce n'est pas le même, ce n'est pas la même chose. Et donc, il y en a qui voudraient attribuer à Rashi en disant cette phrase-là, que lui, il pense que Bet-Amigdash va tomber du ciel. C'est faux et archi-faux, dans le sens où Rashi lui-même, à 17 autres endroits dans le Talmud, eh bien, il dit clairement qu'on va construire le Bet-Amigdash. Donc, c'était juste pour dire, si jamais Dieu il amène la Géoula, pouf, d'un claquement de doigts, bah, Bet-Amigdash, on s'arrange, il va tomber du ciel. Je voudrais simplement rappeler ici que la première source qui vient nous dire que le Bet-Amigdash va tomber du ciel, ce n'est pas Rashi. La première source qui nous dit que le Bet-Amigdash va tomber du ciel, c'est dans les évangiles. Ouais, chez les chrétiens. C'est pas de chez nous. Donc, nous avons deux idées. Celle du Rambam qui nous dit qu'on va le construire, une mitzvah. Celle de Rashi qui nous dit qu'il y a un temple déjà prêt dans les mondes supérieurs que d'autres ont mal compris en disant qu'il est dans, il va tomber du ciel. Il y a un troisième avis qu'on peut imputer, en l'occurrence, à Rabbi Avraham ben Ezra, qui nous dit que, en l'occurrence, quand le Beth Amikdash il va tomber du ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'après que les hommes, nous, on les construit, eh bien, la Shrina va descendre. C'est ça que ça pourrait vouloir dire, que le Beth Amikdash il tombe du ciel. Qu'on va le construire, et là, la présence divine va descendre. Comme ça s'est passé au premier temple, que Shlomo il a construit le Beth Amikdash, et qu'ensuite, le feu, il est descendu. Agave, entre parenthèses, pour revenir à mon histoire du troisième temple qui va tomber du ciel, Rabotai, je vous rappelle que le Mishkan, on l'a construit. Le Beth Amikdash 1, on l'a construit. Le Beth Amikdash 2, on l'a construit. Pourquoi tu veux qu'on ne construise pas le 3? Il y a un troisième avis. Il y a un quatrième avis qui nous dit que, et ça, c'est l'avis qu'on peut imputer à Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu va faire tomber le Beth Amikdash, descendre le Beth Amikdash, et que nous, on va compléter les derniers, on va mettre les ampoules dans les luminaires. Genre, on va finir le boulot. Et comme je l'ai dit, il y a un cinquième avis. Le cinquième avis, c'est le bon, et c'est l'avis du Ramchal. C'est l'avis du Ramchal dans le livre qu'il écrit sur le Beth Amikdash, qui s'appelle Mishkene Elion. Eh bien, là-bas, le Ramchal nous explique quelque chose de fondamental. Il dit le Ramchal que pour ce qui est du troisième Beth Amikdash, il va tomber du ciel et à ce moment-là, les hommes vont le construire. Attention, venez, on essaie de comprendre. Il va tomber du ciel et une fois qu'il sera tombé du ciel, on va le construire. Quoi, ça veut dire que toutes les pierres, elles vont tomber et ensuite on va les mettre en place et on va faire un Lego? Non, bien sûr que non, vous avez bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que la Shrina, tout le modèle du Beth Amikdash, l'idée, l'idéal du Beth Amikdash qui est dans les mondes supérieurs, eh bien, tout ça, Akadosh Baruch Hu va le faire descendre car c'est le moment. Et à ce moment-là, on sera habité par la réalité du Beth Amikdash et donc on va pouvoir le construire. Mais c'est de cela qu'on parle, Rabotai. La construction du troisième Beth Amikdash, évidemment qu'elle doit nous venir d'une Ashra'a, d'une prise de conscience supérieure. C'est ce que le Ramchal nous explique quand il va tomber du ciel. Mais après cela, c'est à nous de le construire parce que c'est une mitzvah et que la Torah, lo mishtana le'olam. Et donc, il faut s'habituer, et c'est difficile, mais il faut s'habituer à replacer le Beth Amikdash, comme toutes les mitzvot d'ailleurs, dans un contexte réel, réel et réaliste. C'est pour ça que je vais vous montrer une image, deux secondes. Je reprends mon livre du Beth Amikdash, évidemment, et je voudrais vous montrer une toute petite image qu'il faut commencer à s'habituer à entrevoir dans notre esprit. Cette image, c'est celle-là. Par exemple, je vais vous la montrer de près. Hop là, si je casse le truc. Alors, je vous la montre de près. Voilà. Il faut s'habituer à cela. Vous pouvez voir ici la ville de Jérusalem avec en arrière-plan donc la ville moderne, hein, notre ville de Jérusalem, et avec cette grue qui est en train de construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on s'inscrit complètement dans du concret. Bon, l'image est fausse parce que le dessin est en train de mettre en place le troisième Beth Amikdash ressemblant au deuxième, alors qu'on sait que le troisième Beth Amikdash sera architecturalement parlant différent parce que nous avons les plans dans le livre de Yéhézkel, mais il faut s'habituer à repenser Beth Amikdash dans un monde réel. Dans un monde réel. Et je voudrais vous montrer ici une dernière image qui pour moi est très importante. Là aussi, hein, l'image du Beth Amikdash, c'est celle du deuxième temple parce que c'est quelque chose qu'on sait bien représenter, machin, mais il faut bien s'imaginer une chose. Vous savez, à Jérusalem, dans tous les quartiers, il y a les panneaux qui indiquent les quartiers, donc on a les panneaux directionnels qui sont en vert avec marqué en blanc et une flèche, genre voilà, faut tourner par là si tu veux aller à Ravia et ainsi de suite. Je vais vous montrer une image qui a été peinte il y a une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, et qui est véritablement prophétique. Qui est véritablement prophétique, et je vais vous montrer pourquoi elle est prophétique. Mais c'est une image extraordinaire à laquelle il faut s'habituer, s'habituer et s'habituer. Ah, attendez, je vais mettre ça bien. Voilà. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé de voir ma tête. Hop là. Voilà l'image. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là encore, on a le Beth Amikdash et en arrière-plan, la ville de Jérusalem. Et il y a plusieurs éléments dans ce dessin. Alors, vous pouvez voir ici ce panneau où il y a marqué Beth Amikdash avec une flèche. C'est par là, l'entrée du Beth Amikdash. Pourquoi je dis que ce dessin est particulièrement prophétique? Bien parce que vous pouvez voir ici le tramway. Maintenant, ce qui est incroyable dans ce dessin, c'est que, eh bien, le dessin qui a été fait par le Makon Amikdash il y a une vingtaine d'années a été fait bien avant que le tramway de Jérusalem ne soit réalisé et bien avant que même il y ait des plans et il y ait des projets du tramway. Et j'ai envie de dire par esprit prophétique, le dessinateur a mis un tramway qui ressemble d'ailleurs étrangement au tramway qu'on a aujourd'hui à Jérusalem. Là, on peut voir également le téléphérique qui nous amène au Beth Amikdash. Évidemment, il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait aucun projet. Maintenant, il y a un projet de téléphérique qui nous amène au Beth Amikdash. Et donc, enfin, qui nous amène à l'endroit du Kotel, mais pourquoi pas au Beth Amikdash? Et donc, vraiment, voir un jour ce panneau où il y a marqué Beth Amikdash avec la flèche, eh bien, les amis, pour moi, ce n'est pas du tout un rêve démesuré. Cette image où on voit le Beth Amikdash et on voit la ville moderne derrière, eh bien, c'est une image qui est tout à fait réalisable. Comment me direz-vous? Ah, ben, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash? Ben, c'est très facile à comprendre. Il n'y a pas le Beth Amikdash aujourd'hui à cause d'une seule chose. On ne veut pas. Pas shoot. Qu'est-ce que ça veut dire on ne veut pas? Am Israël ne veut pas. Et oui, vous comprenez bien que cette mitzvah de construire le Beth Amikdash, ce n'est pas une mitzvah qui est sur moi ou sur toi. C'est une mitzvah qui dépend du peuple juif, donc de ses représentants, donc de la Knesset, du Parlement israélien. Pour que demain on construise le Beth Amikdash, il faut qu'il y ait un député à la Knesset qui propose une loi construction du Beth Amikdash. Il faut ensuite que cette loi soit votée par une majorité à la Knesset, qui passe en première, deuxième et troisième instance. Et à ce moment-là, eh ben, boum, on construit le Beth Amikdash. Bon, évidemment que Bagatz, ils vont s'interposer, ils vont dire que droits de l'homme et tout ça, machin. Et à un moment donné, eh bien, ça passera et on pourra construire le Beth Amikdash. Seulement, eh bien, le problème, c'est que pour l'instant, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait une majorité de Chavrei Knesset, de députés qui veulent voter pour une loi comme ça, et il faut qu'il y ait des députés qui proposent une loi comme ça, très sérieusement. On en est loin. Pourquoi on en est loin? Ben parce que Am Israël, il n'a pas envie d'envoyer des représentants qui pensent à ça. Parce que Am Israël, il ne comprend pas en quoi le Beth Amikdash est tellement essentiel dans sa vie. Donc quand je dis pourquoi il n'y a pas le Beth Amikdash, parce qu'on ne veut pas, c'est concrètement parce que Am Israël, il ne veut pas du Beth Amikdash. Il est temps de lui réapprendre pourquoi il doit vouloir. Il ne veut pas parce qu'il ne sait pas ce que ça lui donne le Beth Amikdash. Il ne sait pas ce qu'il perd quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Eh bien, nous qui avons étudié et qui commençons à un tout petit peu comprendre ce qui nous manque et ce que ça veut dire le Beth Amikdash, eh bien, c'est à nous maintenant de transmettre ces informations pour qu'une majorité de Juifs aient envie de le faire. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra réaliser cette mitzvah de la Torah vers Souli Mikdash, Veshachanti, Betocham. Shavua Tov, à bientôt tout le monde.